explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui, au début des années 1970, entreprend un grand voyage vers l'Inde. Sac sur le dos, il part en stop de la Porte Dorée à Paris. Son périple sur la route des Indes avec un Z, comme il l'a inscrit dans son carnet, va durer 10 semaines. Mais il va l'entraîner dans une aventure bien plus longue. Car une fois rentré, notre baroudeur décide de créer un guide avec toutes les adresses qu'il a relevées pendant son voyage. C'est ainsi que le tout jeune Philippe Glohagen publie en 1973 le premier guide du routard. Depuis, la collection s'est étoffée. Avec plus de 55 millions d'exemplaires vendus, le routard a accompagné 3 générations de voyageurs. Depuis son premier périple en Inde, Philippe Glohagen n'a jamais cessé de prendre la route. Cet après-midi, il vient partager avec nous sa passion du voyage. Il va nous dire comment travaillent les auteurs de ces guides sur le terrain. Nous verrons aussi si nos façons de voyager ont beaucoup changé en quelques décennies et comment la crise sanitaire pourrait modifier durablement les habitudes dans ce domaine. Et bien sûr, nous profiterons de sa présence pour glaner quelques idées pour les vacances de cet été. Et en fin d'émission, nous partirons à la découverte des plantes sauvages comestibles de nos régions avec l'ethnobotaniste François Couplan. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Hélène Couillou-Mjean et préparée par Claire Tesser avec à la technique Adèle Caglar. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Daniel Fievé.
L'autostop, c'est encore une aventure, avec ses risques, ses inconvénients, ses échecs et ses déceptions. C'est enfin un sport qui nécessite un équipement particulier et demande de nombreuses qualités. Courage, astuce, endurance et, surtout, beaucoup de patience. On a parlé d'interdire ce sport en France. En réalité, il s'agit plutôt de l'encourager, car nous avons peu de champions dans cette discipline. Et si beaucoup de nos automobilistes s'arrêtent, davantage encore ont tendance à accélérer lorsqu'ils voient apparaître à l'horizon la silhouette d'un stoppeur. Ceux-là, inutile de leur faire signe, mieux vaut les guetter lorsqu'ils sont désarmés, à pied, au détour d'une station-service.
Voici comment on parlait de l'autostop au milieu des années 60 sur le RTF. Alors, pour reprendre les termes du journaliste, vous, avec vos premiers guides du routard parus en 1973, Philippe Glohagen, vous avez encouragé la pratique de ce sport de l'autostop. Bonjour Philippe Glohagen.
Bonjour, merci de m'inviter.
Alors, il y avait beaucoup de conseils pour voyager en autostop au moment où vous avez publié vos premiers guides du routard.
Oui, on disait même de se déguiser en footballeur avec un ballon de foot. Ça fait comme si quelqu'un, ce joueur a oublié le passage du bus, et donc ça crée une connivence. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait traversé toute l'Europe avec son ballon de foot.
Ah oui, ça pourrait marcher encore, un truc comme ça, en fait.
C'est pas dépassé. C'est un peu passé.
Ah oui.
Il y a eu quand même de gros pépins dans les années 80, il y a eu vraiment des agressions, et puis je vais vous dire, les temps ont complètement changé, les tarifs ont évolué, vous avez un tas de compagnies de bus low cost, vous avez les compagnies aériennes qui sont abordables. À quoi sert de partir en stop à Rome, puisque vous pouvez y aller pour 100 euros
Il y a le covoiturage,
Et il y a le covoiturage qui est une excellente solution.
Et vous-même, Philippe Glohagen, alors donc si on revient un peu dans ce passé, vous avez effectué votre tout premier voyage en stop au Royaume-Uni. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
On est j'avais 16 ans.
Ouais.
Je venais d'avoir mon bac, et comme je rentrais en classe préparatoire, mes parents instituteurs n'avaient pas d'argent, j'avais beaucoup d'amour mais pas d'argent. J'avais dit, on va pas, vous n'allez pas payer une famille d'accueil, d'abord c'est bidon, ce genre de choses. Par contre, pour mon bac, donnez-moi 1000 francs Et la confrontation en autostop avec avec des Anglais, avec des familles britanniques, ce sera un excellent moyen pour apprendre l'anglais. Et c'est vrai.
Ouais.
Je peux vous dire que au bout de un mois, j'arrivais à baragouiner plutôt bien. J'avais une oreille exercée pour l'anglais.
Mais vos parents n'étaient pas inquiets du tout. Alors on est en 1968, hein, donc ça donne un peu une idée de l'époque aussi où on se libère. Mais alors vous arrivez sur le sol de l'Angleterre et vous vous dites allez hop, on fait un tour de l'Angleterre jusqu'en Écosse en stop. La première nuit, vous la passez entre deux prostituées et trois ivrognes.
Dans un commissariat.
Dans un commissariat. Comment ça se fait?
Alors, parce que on était à Plymouth, qui à 1h du matin n'est pas l'endroit le plus safe de la Terre. Et on tombe sur un flic très bienveillant. Et qui commence à nous engueuler, il dit, mais attendez, les Frenchies, naughty Frenchies, vous ne savez pas qu'il y a des voyous dans ce quartier. Le seul endroit qui est sûr, c'est mon commissariat. Et donc, il nous a amenés dans une cellule. La porte était évidemment ouverte. Nous allons faire le thé. Et c'était vrai, ça a été un défilement d'ivrognes, de prostituées. C'était une belle leçon de vie.
Ah oui, une belle leçon de vie. Alors, vous avez quand même un regret sur ce voyage. À un moment, on vous prend en stop. Et c'est un monsieur qui vous dit, mais venez avec moi. Donc, vous êtes avec votre ami, vous voyagez à
Jean-Pierre.
Deux. Venez avec moi, je vous emmène. Un jeune groupe un enregistrement de musique avec un jeune groupe. Venez donc assister à l'enregistrement.
Mais vous savez tout, c'est incroyable que vous connaissiez.
Vous refusez.
Oui, on refuse parce qu'on avait un rendez-vous avec une copine dans une auberge de jeunesse en Écosse, et c'était évidemment la priorité. Et au retour, donc, ce monsieur, dans une superbe Jaguar, nous donne quand même sa carte et dit, si vous changez d'avis, de toute façon, l'enregistrement va durer 5 jours. Et c'était Brian Epstein. Ouais. Alors, moi, je ne savais pas que c'était le producteur des Beatles, mais quand je l'ai rapporté à mes copains à Paris, ils sont bien fichus de moi, parce que c'était les Beatles qui enregistraient Revolver. Ouais.
Vous avez raté une nuit avec les Beatles.
Ouais.
Non mais franchement, Philippe Glohagen. Alors vous qui avez passé votre vie à aider les autres à planifier leur voyage avec les guides du Routard pour ce premier voyage, c'était l'improvisation total, aucune étude des cartes avant de partir et de la situation. Vous vous êtes vraiment jeté là-dedans.
Absolument, hein. Daniel. Tout simplement parce que quand on est en stop, le patron, c'est le chauffeur, c'est pas nous.
Oui.
Et donc, on changeait, on a fait un itinéraire qui ne correspondait absolument pas avec ce qu'on avait prévu. Mais c'était l'aventure, c'était pas grave.
Ouais.
Au lieu d'imposer un itinéraire et de changer de voiture tous les 10 kilomètres, nous, on faisait des périples de 150 kilomètres. On allait quand même très vite, mais on était un peu surpris de tomber dans des endroits qu'on connaissait absolument pas et qu'on n'avait pas prévu.
Il vient peut-être de ce premier voyage, votre goût du voyage, un premier voyage aussi réussi, aussi étonnant, plein de surprises.
C'était en fait l'année suivante quand j'ai moi je vais vous dire. C'est pas en voyageant que j'ai créé le guide du Routard. Je voulais faire votre métier, c'est-à-dire être journaliste, être envoyé grand reporter à l'étranger, ramener de la copie, ce qui me permettait de repartir ensuite. J'avais rencontré Jean Lacouture, qui était en poste pour le Nouvel Observateur au Caire. Il avait assisté à l'inauguration du deuxième barrage d'Assouan, à sa gauche Khrouchtchev. À sa droite, Nasser. Je peux vous dire, il n'y a aucun milliardaire qui avait des voyages de la teneur de Jean Lacouture. Et j'ai voulu faire ce métier-là avec le talent en moins. Donc j'ai contacté divers journaux. J'étais étudiant, dont Actuel et Pilote, pour faire des piges. Et Actuel n'avait pas d'argent, et comme j'étais le journaliste le moins cher, parce que moi c'est auberge jeunesse, camping et autostop, Jean-François Bizot m'a envoyé en Inde, et là, ça a été vraiment l'acte fondateur du guide de Routard.
C'est ça. Voilà. Ce voyage, en 1971, vous partez donc en stop de la Porte Dorée, comme le disait
Porte Dorée,
monsieur.
Oui.
Vous arrivez en Inde, 10 mois plus tard, il se passe plein de choses pendant ce voyage, et c'est quand vous rentrez que justement le rédacteur en chef de ce magazine Actuel vous dit, mais toutes ces adresses que tu as notées, pourquoi ne pas en faire un guide?
Voilà. C'est-à-dire que ça a été publié, il en a fait 6 pages, et il y a eu beaucoup de courriers, ça l'avait un peu surpris. Et puis on discute. Bizot était quand même quelqu'un à l'affût de nouveaux talents. Il avait pris du temps, j'étais impressionné. D'abord par sa taille, c'était un type assez merveilleux. Et surtout, il s'intéressait à des gens qui sont rien. Alors que lui, les gens ne le savent pas, c'est un grand héritier, héritier de Ron Poulenc. Mais il s'intéressait à tout, regardez, c'est lui qui a recruté Jamel Debbouze, Omar Sy, Édouard Baird, Wiesmann, bon, toute la nouvelle génération, c'est quand même Bizot. Et moi j'étais dedans, et il me propose de me présenter des éditeurs. Et il le fait. Mais à part que le Guide de Routard a été refusé par 19 maisons d'édition. Voilà.
Alors là, à ce moment-là, on est au début des années 70. Et pour se resituer dans l'époque, beaucoup de voyageurs à cette époque convergent vers l'Inde, d'où vous revenez, où vous voulez faire ce petit guide, et notamment des voyageurs hippies, à l'image de ce petit groupe de hippies en Inde interrogé sur l'ORTF en 1971.
J'ai 19 ans, d'origine assez bourgeoise. J'ai suivi mes études jusqu'à avant le baccalauréat. Je suis parti étouffant. Et ça fait à peu près un an que je voyage. Et je suis parti, avant de partir, j'ai travaillé, j'ai laissé de l'argent à mes parents qui me les ont envoyés au fur et à mesure que je demandais. Et ça a duré jusqu'à Delhi, maintenant on s'arrange. On fait la Manche, etc. Enfin, on s'arrange. Et pour le retour, je retourne sans doute pour cet été pour essayer de me faire réformer. Et autrement, je repars aussitôt.
Moi j'ai 21 ans, je suis d'origine de famille modeste. Je suis parti de France il y a un an, j'avais de l'argent. Maintenant, je n'en ai plus, mais enfin, on sait beaucoup de combines pour pouvoir se débrouiller, pour avoir de l'argent. Et avec une moyenne de 5 francs, on peut vivre journellement.
Moi, personnellement, je ne recherche rien. Je voyage depuis 10 mois et je prends ce qui se trouve sur la route. Je ne cherche rien.
Alors vous vous sentiez proche, vous Philippe Glohagen, de ce mouvement hippie de voyageurs qui partaient sans le sou. On a souvent présenté le Guide du Routard comme un guide de hippies, ça vous va ou
oui,
pas?
Oui, pas du tout. Nous on n'était pas du tout des hippies. En fait ça correspondait à une période où les jeunes désargentés pouvaient partir en voyage. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 50, pour aller à New York, prendre le Super Constellation d'Air France, aller-retour, ça coûtait le prix d'une voiture neuve. Donc ça appartenait à une élite. En 67, les charters sont autorisés en France. Il y a une dégringolade des tarifs. Air France crée des vols vacances. Il y avait nouvelles frontières, le droit au voyage, ça devenait accessible. Moi, je suis parti en Inde parce que j'étais époustouflé par les cultures orientales, mais je m'entendais très bien avec mes parents. Je démarrais des études longues, passionnantes, et j'ai pendant 3 ans d'études fait des voyages pendant les vacances scolaires, comme beaucoup de Français. On rejetait pas la société et on n'avait pas envie de lui dire merde.
Ouais, mais envie de voyager pour pas cher. C'était
pas
ça.
Pas cher,
hein,
c'était ça.
Alors au début, vous avez dit 19 refus au moment où vous éditez ce petit guide du routard. Les éditeurs n'y croient pas du tout. Celui qui vous suit et qui y croit fait faillite l'année suivante. Ça démarre pas sur les chapeaux de roue cette aventure.
Il se fait écraser par un autobus.
Oui, alors mon expression est malheureuse.
Et faillite ensuite, vous avez raison. Et là, on a 4 propositions d'éditeurs parmi les plus importants qui viennent nous voir, alors que nous, on sonnait aux portes, on nous ouvrait pas. Là, les portes étaient déjà ouvertes et celui avec qui j'ai signé, c'était Hachette. C'était le meilleur. Il l'est toujours. Nous sommes un couple qui devrait être au Guide des Records, parce que ça fait 40 ans que je suis édité par des gens formidables, très compétents, et surtout, ils éditaient les guides bleus, ils l'éditent toujours, et donc ils avaient un fonds de cartographie qui était unique en France. Même Michelin n'avait pas autant de cartes que les guides bleus, et ça s'est toujours très bien passé, ils se sont adaptés, et c'est toujours la lune de miel.
Ouais, nous allons voir comment se déroule cette lune de miel, Philippe Glohagen, comment vous et les auteurs du guide du Routard, vous travaillez sur le terrain. Vous nous direz aussi comment ont évolué nos façons de voyager au cours des dernières décennies. Le temps d'un bivouac avec le Routard en chef, Philippe Glohagen, sur France Inter, cet après-midi.
Mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc vos tours pour manger. Se régaler, amis vautours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
C'était La vie est belle, Fixie, Nicolas Giraud et Jojoa sur France Inter.
Tout le monde considère qu'on fait un métier de rêve et tout le monde considère qu'on travaille pas vraiment, qu'on s'amuse et qu'on voyage. C'est loin d'être le cas. On est debout à 8h du matin, à 8h40 on a fini son petit déj copieux parce qu'on sait qu'on va beaucoup bouger. Et on termine à 11h minuit parce qu'en une journée, on va à la fois voir des endroits pour prendre le petit déjeuner, des endroits pour se promener dans des parcs le matin ou pour aller au marché, des endroits pour manger à midi, des endroits pour faire la sieste au soleil l'après-midi, des endroits pour manger le soir et des endroits pour sortir après dîner. Lorsqu'on est un auteur de guide, on est au boulot en permanence. C'est-à-dire que là, je vais vous quitter dans un moment parce que je vais avoir envie d'aller aux toilettes. Si je vais,
vous serez encore en train de travailler aux toilettes de l'aéroport.
Je vais jeter un regard discret pour voir l'état et la propreté des toilettes pour me rendre compte si ça vaut le coup de vous les proposer ou non.
Hervé Basset, auteur de guide de voyage pour Gallimard. On brasse large dans cette émission. Il était au micro d'Anne Pastor en 2011 sur France Inter. Avec nous, Philippe Glohagen, cofondateur du guide du Routard, auteur de guide de voyage. C'est un métier de rêve où finalement on prépare le voyage des autres, mais c'est pas si rigolo que ça pour ceux qui voyagent pour écrire les guides, Philippe Glohagen.
C'est pas rigolo, c'est juste passionnant. Parce que quand on trouve une bonne adresse, on peut se dire, je vais la proposer, non pas à 10 copains, mais à 50 000 lecteurs qui vont passer un bon moment, comme moi je l'ai, j'ai passé un moment exceptionnel. Et c'est cette transmission-là qui est extraordinaire. Ouais. C'est fatigant. Mais bon, cette mission de transmettre des bonnes adresses, des regards ou des petits tuyaux un peu ignorés, c'est juste génial.
Mais il vous arrive encore, Philippe Glohagen, de voyager pour le plaisir uniquement ou vous êtes tout le temps en train de remettre à jour le dernier guide du Routard, le dernier qui est passé par là?
Mais le plaisir, c'est tous les jours.
C'est-à-dire
tous les jours.
Il y a toujours ce regard,
oui,
où que vous soyez, est-ce que ça pourrait figurer dans un guide ?
Alors pas forcément. Mercredi, j'étais à Bordeaux. J'ai eu la chance de rencontrer la conservatrice de la Cité des Vins qui m'a proposé de faire une visite privée du vin du temps de l'Antiquité. C'était génial. Le musée était fermé, je l'ai eu pour moi tout seul, et surtout cette conservatrice fabuleuse. Et c'est des moments un petit peu exceptionnels.
Vous êtes
merci Marion.
Ouais, ben voilà, on la remercie. Vous êtes un grand curieux, hein, surtout passionné d'histoire. L'histoire des lieux vous passionne.
Je suis fils d'instituteur. Ouais. À part que mon papa me disait, moi je fais l'école à 20 élèves, toi tu l'as fait à 2 millions. Ouais. Donc on fait un peu attention. On est prudent dans ce que l'on dit. On peut, ça a souvent un impact qui peut être considérable, en bien ou en mal. On ne peut pas prendre toutes les adresses. Il y a des capacités d'accueil qui sont parfois intenables pour certaines adresses. Mais ça, c'est notre métier. Nous, par les guides du Routard, on vend du bonheur. Ouais. Et ça, c'est absolument formidable.
Ouais. Vous n'avez jamais cessé de voyager, vous, Philippe Glohagen ?
Si, mais je suis tombé il y a 25 ans, très malade, j'étais paralysé, une maladie orpheline, et donc pendant 4 ans j'ai été alité à la Salpêtrière, disons que j'ai failli mourir.
C'est-à-dire que les médecins, à ce moment-là, 8 médecins vous disent, vous êtes condamné, monsieur.
Ouais. Et ça a été un grand débat. Évidemment, je suis resté ami avec plein de médecins, dont celui qui a repéré cette maladie. Il n'y avait que 6 cas par an en France, donc on ne peut pas leur en vouloir non plus. Et c'est vrai que de condamner, de dire à un malade, prépare-toi, prends une tombe au cimetière, comme ils me l'ont recommandé, moi j'ai acheté une tombe, ça casse la pêche pour se battre. Et moi, de toute façon, j'étais en overdose de combat, donc je me suis battu, je m'en suis sorti grâce à eux. Vraiment, quelle chance nous avons d'habiter en France, d'avoir des hôpitaux publics. On les a beaucoup critiqués. Moi qui les connais de l'intérieur, eh bien, on a beaucoup de chance d'être en France.
Mais est-ce que, alors, vous êtes sorti de cette maladie, vous avez terrassé la maladie, mais elle a laissé quelques séquelles, c'est-à-dire que maintenant, pour marcher, la marche est difficile pour vous.
Je boite, je peux plus voler dans les magasins, les chiens me rattrapent, mais bon,
ça ne vous a pas empêché de voyager pour autant, malgré ce handicap, vous avez continué à...
Pendant très longtemps, je voyageais, j'avais un copain qui pilotait la voiture, parce qu'il y avait toujours un risque, j'ai une jambe un peu faible, donc je voulais pas prendre de risque, écraser une petite fille. Donc pendant très souvent, je suis avec quelqu'un qui me conduit, il est ravi, tous les frais sont payés.
Ouais, c'est ça, ça n'a pas entamé en tout cas votre voyage et votre sens de la négociation pour vous faire accompagner. Combien de pays ont fait l'objet d'un guide du Routard à ce jour ?
Alors, pays, c'est compliqué parce que vous prenez déjà la France, il y a 40 guides qui concernent la France,
ouais,
qui correspondent à régions
différentes
françaises.
Ouais.
Et puis vous avez États-Unis, il y a 10 titres, l'Italie une douzaine, Espagne aussi. Donc j'en sais rien. Mais je vous dirais que en gros, nous éditons 160 guides du routard par an, c'est-à-dire un tous les deux jours ouvrable.
Bon, alors on va aller voir grâce à France 2 qui avait suivi une de vos rédactrices du guide du routard, Anne Poinceau. Elle avait été donc suivie à Barcelone. On va avoir un petit aperçu de comment vos auteurs travaillent sur le terrain.
Très bon glacier artisanal, aux produits sans conservateur et sans colorant. Uniquement des produits de saison pour tout ce qui est sorbet et fruits.
Et tout ça, c'est des infos que vous avez eues comment ?
Ben, en papotant avec le monsieur, là, tout simplement. Voilà.
Une fois dans le guide, garder sa place se mérite. Celle de ce restaurant référencé depuis plus de 10 ans est en danger. Anne Poinceau a reçu de nombreuses plaintes de lecteurs. Elle décide de s'y rendre. Elle observe l'accueil, le cadre et la qualité de la cuisine. Mais le bilan est sans appel. Ce restaurant n'est plus digne d'être dans le guide.
Vous n'avez aucun scrupule à faire sortir une adresse comme ça qui est dans le guide depuis très longtemps ?
Ben, oui et non. Oui, j'en ai. Je trouve ça dommage pour eux, surtout, bien sûr. Mais moi, mon premier ami, mon meilleur ami, c'est le lecteur. Le lecteur, je vais l'envoyer là, il va être déçu.
Lorsqu'une adresse est supprimée, le professionnel n'est jamais averti. Mais il risque de s'en apercevoir rapidement dans son tiroir caisse, car l'enjeu commercial est énorme.
Les gens viennent avec le guide sous le bras et ils nous montrent. Restaurant Calpapi, Carmen. Je leur dis oui, c'est moi. Grâce à ça, on a beaucoup, beaucoup de Français. Énormément. On a multiplié par 4 ou 5 le nombre de clients français.
Vous avez un vrai pouvoir, Philippe Glohagen, sur ces commerçants qui tiennent des chambres d'hôtes ou des établissements en les intégrant ou en les retirant de votre guide, on l'entendait. Hein. Oui. C'est un chiffre d'affaires qui change.
Ce que dit Anne est formidable, c'est la réalité. Nous, nos copains, sont les lecteurs, on leur doit tout. Les restaurateurs ou les hôteliers... On a des amis, bien entendu, un peu partout, mais on leur doit rien, on paye les additions, tout est payé. Oui.
C'est toujours incognito quand on rentre...
Alors c'est toujours incognito, ça c'est la grande règle du guide du routard, et c'est assez rare qu'on nous reconnaisse, les gens ne sont pas dans ce trip-là, sauf s'ils nous ont vus à la télévision la veille, mais c'est rare, et donc cet incognito fait que on a l'accueil comme... Un lecteur. Ouais. Je vais vous apprendre quelque chose, Daniel. Savez-vous que même les Français estiment que la première chose à observer dans un restaurant, c'est pas la qualité de la cuisine, et ça, on a fait des sondages là-dessus, c'est étonnant, c'est l'accueil. Si vous êtes bien accueilli, vous acceptez de déjeuner dans un restaurant un peu moyen, si la patronne est sympa, si on vous accueille avec le sourire. Donc, on peut pas jouer à la reine d'Angleterre, parce que l'accueil est faussé.
Et oui.
Donc, l'incognito est absolument fondamental.
Et c'est ce qui peut aussi changer, parce que l'accueil, on peut tomber sur un jour avec, et puis un jour sans. C'est quelque chose d'assez fluctuant, l'accueil, dans certains établissements.
Oui, mais en gros, quand le patron est sympa... Les équipes suivent.
Ouais. Et puis souvent, vos lecteurs vous aident parce qu'ils envoient des messages en disant « Ah ben là, finalement, ça se passe mieux ou moins bien que ce que vous aviez dit. »
Alors, vous savez, le guide du routard, c'est un peu considéré comme si c'est un copain qui vous donne des conseils. Donc, quand on n'est pas d'accord avec le copain, déjà, on a plutôt confiance parce que c'est plutôt sincère. Mais l'autre chose, si on n'est pas d'accord avec le copain, on lui écrit, on lui dit. Mmh. Et on reçoit 25 000 lettres par an. Je vous cite un exemple. Il y a des gens qui ont divers menus, des restaurateurs. Et puis, on leur amène donc 20-30% de clients en plus. Eh bien, le petit menu à 12 euros... Ils ont toujours un peu tendance à l'oublier pour proposer celui à 15. Et là, je peux vous dire que l'arnaque, elle est là. Mmh. Et on le sait tout de suite, mais alors dans les 3 jours, par des centaines de lecteurs qui se plaignent, et on est intraitable. Ouais. Parce qu'on leur fait des cadeaux. Ouais. S'ils ne respectent pas nos lecteurs, no chance, c'est fini.
Vous parliez d'intervenir incognito. J'ai vu aussi, alors vous êtes allé évidemment sur le terrain, il vous est arrivé de vous rendre dans des pays où par exemple en Birmanie, à l'époque, on ne délivrait pas de visa si vous étiez journaliste. Donc il fallait s'inventer une profession. Vous aviez rempli sur le papier pilote d'avion. Parfois ça joue des tours de vouloir jouer au petit malin incognito. Racontez.
C'est génial. Alors en plus, je la raconte cette histoire dans le magazine du Routard, on en reparlera, numéro 2 dans un mois. Et donc, j'avais, à l'époque, les passeports bleus avaient la profession. Donc, c'était déclaratif. Et moi, j'avais mis pilote de ligne parce que écrivain, journaliste, interdit en Birmanie. Et je pars avec un copain à Pagan, dans un endroit absolument fabuleux, béni des dieux. D'ailleurs, il y a 3000 pagodes. Et au retour... je suis dans le hangar qui fait office d'aéroport, c'était très modeste, le pilote était absent, en fait, disons qu'il avait la gueule de bois, et comme le directeur de l'aérogare avait vu que j'étais pilote de ligne, il m'a demandé de conduire de piloter l'avion.
Oui, on vous appelle pour piloter l'avion, voilà. Alors qu'évidemment, vous n'avez jamais piloté l'avion.
Alors, c'était un peu compliqué, surtout qu'avec les colonels birmans, on n'a pas envie de déconner.
Ouais.
C'est pas des gens qui manient l'humour d'une façon transcendante.
Comment vous vous en êtes sorti, alors?
Eh bien, j'ai dit, ok, je vais conduire l'avion, montrez-moi l'engin. Et je suis sorti, c'était un Fokker. J'ai dit, mais attendez, je suis français, nous, je n'ai des certifications que sur Airbus.
Bon.
Ils ont compris, c'est un peu juste. Quand
il faut savoir improviser. Merci Philippe Glohagen. Depuis vos premiers guides, vous avez vu passer 3 générations de routards. Vous allez donc nous dire si les façons de voyager ont beaucoup changé et si, selon vous, la crise sanitaire va modifier durablement les habitudes dans ce domaine. Et puis on profitera de votre présence pour glaner quelques idées pour les grandes vacances. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Sur la route, sur la route, sur la route, sur la map monde à vol d'oiseau. C'est dit qu'on peut gagner gros.
Qu'on a le ciel dans une goutte d'eau.
On cherche tous un bon destin.
La vie s'écoule entre nos mains. La joie, la peine, notre chemin.
Traverser la vie sans billet de train.
Traverser la vie sans billet de train.
Sur la route. Sur la route. Solitude, la mauvaise terre, ça fait rêver la liberté.
Jurer qu'on ne s'ennuiera pas quand on aura du bien, tu vois. Et ce bonheur qui nous traverse
pour un simple morceau de pain.
Si tu as faim, prends le mien.
Sur la route, sur la route.
Sur la route,
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 Raphaël et Jean-Louis Aubert sur la route dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Le guide du routard version 70. Sac à dos, guitare, autostop, la route, celle de Katmandou, celle du Pérou, image révolue d'un tourisme désuet. Le guide du routard du Sud-Ouest, version 90. Une nouvelle couverture, un style plus classique. Les routards changent, le guide aussi.
Le petit lycéen boutonneux, fauché, qui nous faisait confiance en 1975 pour partir en Inde, il a maintenant 15 ans de plus, probablement une femme adorable et puis des petits bambins blondinets et joufflus. Et il part en voyage, peut-être avec une caravane, mais il est resté jeune dans sa tête.
Les routards des années 70, ce sont les touristes des années 90. Du bord des routes, ils sont passés à l'intérieur des restaurants et leur quête de nouveaux paradis a fait place à celle de bonnes adresses, la gastronomie, une nouvelle forme d'aventure.
En 1990, déjà, on notait quelques évolutions dans la présentation du guide du routard, dans les destinations et puis dans le public visé. On entendait d'ailleurs la voix de Pierre Josse, que vous connaissez bien, Philippe Glohagen. Vous avez fondé le guide du routard, vous, en 1973. Et puis Pierre Josse vous a rejoint dans cette aventure peu après. Il a longtemps été le rédacteur en chef du routard. À quel point le guide du routard a évolué en presque 50 ans maintenant, Philippe Glohagen?
Ben d'abord parce que le transport, la façon de voyager a évolué. Tout à l'heure, vous évoquiez l'autostop, ouais. Ça a pratiquement disparu à cause des low cost, aussi bien au niveau des avions que du bus. Vous avez un regard sur des destinations qui est très différent. L'été dernier, on a remarqué que tout le littoral français était archibondé. C'était vraiment l'endroit à ne pas forcément rester trop longtemps. Et je peux, moi, vous conseiller, comme beaucoup de lecteurs, d'aller découvrir le département de l'Ain, qui est un temple de la gastronomie très peu connu entre Lyon et le Jura. Vous avez, il y a 15 jours, j'étais dans le parc du Morvan, qui est absolument sublime. C'est le parc le plus proche de Paris, à 200 km au sud de Paris, au nord de la Bourgogne. Vous avez le département du Tarn, qui est avec des villages parmi les plus beaux de France, et pas trop fréquenté. Ouais. Et nous, les rédacteurs du guide du routard, on prend nos lecteurs par la main pour leur dire, écoutez, allez un peu vers l'intérieur. Il y a de très belles choses sur les rives de Bretagne ou des Landes, mais à l'intérieur de la France, vous pourrez constater que la France, c'est le plus beau pays du monde. Ouais. Mais ça, on le savait.
Et ça, vous le saviez et vous l'aviez dit même avant la crise sanitaire qui nous a effectivement recentré sur la France. Tous les voyageurs, même ceux qui aimaient voyager très loin, se sont mis à revoyager, à redécouvrir en quelque sorte le pays. D'ailleurs, ça vous a aussi donné à vous l'idée de lancer le Routard Magazine, dont le numéro 1 est sorti en mai, où vous nous emmenez, alors particulièrement en Bretagne, mais un peu sur les routes de France, aux quatre coins de France. On va en Picardie, on va à Port-Croce, on va dans les Pyrénées, on se balade partout en France. On retrouve bien l'esprit du Routard et avec cette idée qu'on peut vivre des aventures et des belles dans notre pays, pas très loin.
Alors, ce qui nous a fait plaisir pour le magazine du Routard, déjà, ça a été son succès, puisque de 120 000 prévus, ils ont réimprimé au bout de 10 jours, on en est à 160 000 exemplaires, donc c'est un beau succès. En fait, là, c'est particulier. D'abord, c'est toute l'équipe du guide du Routard qui travaille. Il n'y a pas de gens de l'extérieur, et on picore nos plus belles fleurs, les plus belles adresses. Alors que le guide du routard, c'est un peu un bulldozer. Il va vérifier 150 adresses à Marseille. On va en sélectionner 40 et on va les mettre en avant. Mais on peut être perdu au milieu de toutes ces pages. Alors que dans le magazine du routard, on prend quelques exemples. Gavin, c'est parti en van au Pays Basque avec ses enfants. Il raconte cette aventure qui est géniale dans des endroits très particulier. On vous fait un comparatif entre les grottes de Lascaux et les grottes de Chauvet. Personne n'a jamais fait ce genre de comparatif. C'est passionnant. Et là, c'est des engagements. C'est-à-dire que, évidemment, on a travaillé avec des archéologues, avec des gens qui ont cette compétence, et on a essayé de transmettre je dirais, des partis pris. Mmh. Là, on s'engage beaucoup plus. On dit, si vous voulez découvrir l'Ardèche et si vous voulez vous marrer, eh bien, vous pouvez louer des mobilettes bleues en Ardèche. C'est génial. Moyenne, c'est du 25 à l'heure. Mais c'est des souvenirs absolument fabuleux. Alors, c'est des adresses qu'on avait déjà dans le Guide du Routard. Mais il faut un peu tomber dessus. Mmh. Alors que là, dans le magazine, on les étale, on en fait un peu la promotion grâce à de très belles photos, une maquette assez exceptionnelle. Et c'est vrai que là, c'est des choix qui sont forts, parce que tout de suite, on a envie d'y aller.
Philippe Glohagen, pour terminer, un dernier conseil, un petit chemin de traverse en France, un lieu méconnu qui gagne à être connu et que vous nous conseillez pour les vacances. Faites-en peut-être plusieurs, un petit assortiment, même si on n'a plus beaucoup de temps.
Je vous donnerai qu'un seul conseil. Ouais. Allez où vous voulez, quand vous voulez. Mais si vous voulez réussir vos vacances, partez avec la personne que vous aimez.
Ah oui.
Et même des endroits pourris, du moment qu'on s'entend bien, du moment que voir un petit peu amoureux, ce sera des vacances formidables.
Ah bah alors avec un principe comme ça, il n'y avait plus besoin de guide finalement, c'est une agence patrimoniale qu'il fallait ouvrir, Philippe Glohagen. Merci d'être passé par notre bivouac, et puis vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission. Vous allez voir, ça devrait vous intéresser, vous le curieux de nature. Parce que dans un instant, nous partons à la découverte des plantes sauvages comestibles de nos régions avec l'ethnobotaniste François Couplan. Très bel après-midi à l'écoute du Temps d'un Bivouac sur France Inter. The Black Keys, Crawling Link Snake, King Snake sur France Inter. La programmation musicale est signée Muriel Pérez.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Ça, c'est un garde-manger. Si jamais un jour vous vous trouvez en situation de survie et vous avez vraiment besoin de vous nourrir intégralement, qu'est-ce qu'il vous faut ? De l'amidon. Vous allez trouver ça, par exemple, dans des fruits, dans des graines, dans des glands. Alors ensuite, on va trouver de l'amidon dans les racines, par exemple les racines de réponse. Très bien, tout ça. Mais ici, il n'y en a pas de réponse. Par contre, ce qu'on va trouver un petit peu partout, c'est ça. Les massettes. Ça, c'est un pur délice. Tiens, vous allez me dire ce que ça vous rappelle. Tiens, goûte, croque. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Non, c'est le cœur de palmier.
J'adore.
Vous allez goûter.
Bonjour, François Couplan.
Bonjour Daniel.
Vous êtes ethnobotaniste et vous avez récemment publié « Découvrir et publier et utiliser nos plantes sauvages comestibles » aux éditions Glénat. On vient de vous entendre faisant découvrir quelques-unes de ces plantes sauvages à un petit groupe lors d'un stage. Quelle est la plante dont vous parliez qui semblait particulièrement nourrissante ? Les massets, si j'ai bien entendu.
Les massets, c'est des plantes qui poussent les pieds dans l'eau, vraiment les pieds dans l'eau. Et qui sont assez courantes. On confond parfois avec les roseaux à tort. Hein. Ça fait comme des espèces de petits manchons bruns tout au sommet. Et puis voilà, il y a des rhizomes dans des tiges souterraines qui sont très riches en amidon. C'est vrai que c'est sympa. Faut pas en ramasser à l'excès parce que voilà, soyons raisonnables. Mais bonne nourriture de survie en tout cas, ouais. C'est bon en plus.
Et alors pour vous, les plantes sauvages sont une ressource alimentaire importante que l'on a tort de négliger.
Bah oui hein. Bah oui, on les a toujours appréciés depuis qu'on existe sur Terre. Je dirais même qu'on est, quelque part on est fait pour manger des plantes sauvages, puisque depuis le temps que l'homme existe sur Terre, si on prend Homo sapiens 300 000 ans, l'agriculture elle a quand même que 10 000 ans. Comme il faut manger du végétal, pendant la plus grande partie de notre séjour sur Terre, on s'est nourri de plantes sauvages. Et non seulement on n'en est pas mort, mais en plus on se portait bien, même sans doute mieux, puisqu'à partir du néolithique, il y a eu quand même des problèmes de carence, il y a eu des problèmes de trucs qui allaient plus très bien. Et pour des raisons qui sont souvent en grande partie, je dirais, des questions de statut social, par exemple, on les a laissés de côté. Et c'est dommage. C'est dommage parce que il y en a beaucoup qui sont vraiment bonnes. Il y a une telle variété, une telle diversité qu'on trouve vraiment ce qui peut nous plaire d'une part, c'est important, les saveurs, et d'autre part ce qui peut vraiment nous faire du bien à l'organisme, en particulier sous l'angle de l'apport nutritionnel et en particulier des micronutriments.
Oui, c'est-à-dire que ces plantes, du point de vue nutritionnel, elles sont aussi intéressantes que les plantes cultivées, domestiquées qu'on a sélectionnées pour notre alimentation.
Alors, du point de vue de l'amidon dont je parlais tout à l'heure, non. Et finalement, je reviens un petit peu d'ailleurs sur ce que je disais, l'amidon, c'est essentiel. Finalement, ça l'est beaucoup moins en fait que je ne pensais. J'en consomme de moins en moins, je me porte de mieux en mieux. Et ce qui est pas mal quand on prend de l'âge, n'est-ce pas ? Mais l'intérêt majeur, je dirais, des plantes sauvages, c'est vraiment les micronutriments, c'est-à-dire les sels minéraux, les vitamines, les oligoéléments, les flavonoïdes dont on parle de plus en plus, les antioxydants, hein, voilà, les piégeurs de radicaux libres qui évitent le vieillissement prématuré de l'organisme. Et ça, pour ça, alors là, il y a pas à tortiller, si j'ose dire. Ouais. Les plantes sauvages, bien choisies, bien évidemment, sont vraiment top pour ça.
Ouais. Alors il y a pas
de comparaison. Même.
Vous dites bien choisies parce qu'attention, hein, évidemment, et vous le dites dans votre ouvrage, dans votre guide, il y a aussi des plantes toxiques. Hein. Quelques exemples de plantes sauvages qu'il faut savoir ne pas manger et savoir reconnaître.
Ouais. Oui, alors, je vais dire deux mots sur la toxicité parce que c'est important, parce qu'on le perçoit pas toujours très très bien. En gros, je dirais, il y a deux types de toxicité, la toxicité aiguë, la toxicité chronique. Mm-hmm. La toxicité aiguë, ça veut dire l'aconite, le laurier rose, le feuillage de l'if, les baies de belladone, etc., des feuilles de digital. Vous en mangez pas deux fois, quoi.
Oui, c'est
parce
ça.
Que là,
la belladone,
c'est radical.
Hein, la belladone, vous dites 10 à 15 baies, ça peut être mortel.
C'est vraiment mortel, même en petite quantité. Donc, il faut savoir les connaître, les reconnaître, les identifier dans la nature. Et évidemment, je dirais, par définition, on les évite. Après, il y a la toxicité chronique, et là, c'est plus délicat, parce que dans la toxicité chronique, on va trouver également, par exemple, des plantes cultivées, des plantes même des légumes de tous les jours, les épinards, l'oseille, la rhubarbe, les blettes, par exemple, renferment des oxalates, et ces oxalates, sur le moyen et sur le long terme, sont vraiment pas bons. Ça dépend aussi des individualités. Et on va retrouver évidemment la même chose dans les plantes sauvages, puisque c'est d'une grande diversité, donc il y a effectivement des plantes qui renferment des oxalates, ou il y a des plantes qui renferment des alcaloïdes qui sont cumulatifs, il faudrait pas en manger trop souvent. Voilà. Donc, tout simplement, je le dis, il faut les choisir, il faut les connaître, faut savoir ce qu'on peut ramasser, en quelle quantité on peut ramasser quoi, où et quand. Voilà.
Surtout qu'en moment, François Couplan, c'est la période, hein, vous qui vivez en montagne, hein, dans les Alpes de Haute-Provence, ça foisonne, ça pousse, hein, c'est un peu le printemps en décalé, hein, dans la région où vous êtes. Alors donnez-nous peut-être là pour terminer, parce que c'est ce que vous faites dans votre livre, quelques exemples de recettes, de plantes sauvages que l'on peut accommoder. Je me suis noté quelques idées, hein, la soupe d'ortie, la quiche d'égo, le pesto de plantain, je ne sais pas lequel vous voulez choisir.
Je vais prendre le pesto de plantain pour une bonne raison, c'est qu'il y en a partout. Il y a plusieurs espèces de plantain, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, il y a trois espèces de plantain qui sont extrêmement communes. Grand plantain, plantain moyen, plantain lancéolé. On peut choisir ce qu'on veut, finalement. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile à reconnaître. Ce sont des feuilles qui ont cinq nervures parallèles, qui sont pas très hautes, qui sont extrêmement communes et qu'on ne peut pas confondre avec des plantes toxiques. Donc déjà, c'est pas mal. En plus, un petit goût de champignon qui est pas désagréable du tout. Et bah, je vous livre la recette telle quelle. Voilà, vous ciselez le plantain très fin, mais très très fin, avec un couteau qui coupe bien, j'insiste, parce qu'il faut pas écraser la plante, il faut vraiment la couper pour pas oxyder. C'est très mauvais d'oxyder les plantes, c'est diminuer les vertus nutritionnelles, justement, c'est pas ce qu'on veut. Donc des noisettes grillées, un petit peu de fromage coupé en morceaux, quelques gouttes de vinaigre, du sel, un petit peu d'ail, tout ça on met dans le bol d'un mixeur, on mixe, on ajoute les feuilles de plantain très finement ciselées, et ensuite on monte avec un filet d'huile d'olive, on voit quand ça forme la pâte, le pesto, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est super bien. Alors on peut ajouter d'autres choses, moi j'aime bien ajouter de l'origan, ou ajouter des feuilles de mélisse par exemple, c'est ma grande nouveauté. Pas nouveauté, mais enfin, c'est ma grande recette printanière, pesto de plantain et de mélisse, parce que j'ai la mélisse à foison autour de chez moi, et c'est juste trop bon, quoi. C'est hyper simple, on a toutes les propriétés de la plante, et puis c'est simple à faire, quoi. Voilà, c'est
ce qu'il faut. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Vous nous autorisez à mettre cette recette sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, François Couplan?
Oh, Daniel, avec grand plaisir, évidemment. Bon. Bien sûr, moi, ce que j'aime, c'est partager.
Eh ben, merci à vous, François Couplan. Je rappelle le titre de votre livre, « Découvrir et utiliser nos plantes sauvages comestibles » aux éditions Glénat. Un grand merci à vous, François.
Avec plaisir, Daniel.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.